Pourquoi la réussite d'un marathon passe-t-elle par la nutrition, et cela bien avant la course et même bien avant la prépa? C'est ce dont nous avons discuté avec Laure. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et le sujet du jour, c'est la préparation d'un marathon sur le plan de la nutrition. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas vous parler de quoi manger pendant la course, mais plutôt quoi manger pendant la préparation, au début et dernier jour avant la course, la fameuse période d'affûtage, et aussi pourquoi cela commence bien avant le début de la préparation. En fait, nous sommes partis de la question de Bastien qui souhaite préparer le marathon de La Rochelle dans environ 8 mois, mais aussi de nos expériences respectives à Laure et à moi. Vous allez constater que cet épisode se trouve à la croisée de nombreux autres épisodes de la Minute Perf, mais aussi d'anciens et de futurs épisodes de Sport Nutrition, de Kilomètre 42, sur la balance énergétique, les repas avant une course, les soucis gastriques, le microbiote. Vous allez comprendre pourquoi il peut être important de s'affiner un petit peu avant d'attaquer la préparation marathon. Vous allez comprendre qu'une préparation marathon est exigeante sur le plan de l'alimentation, et nous allons parler des derniers jours avant le marathon et des stratégies nutritionnelles pour faire les pleins de glycogène et être prêt le jour de la course. Et juste avant de partager avec vous cette discussion passionnante, j'ai fait une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub en plus des programmes et des coachings qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour Laure.
Salut Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah écoute, je vais vraiment super bien. Et toi?
Eh ben écoute, ça va bien, ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Minute Perf dont le sujet, je n'ai... Alors, il faut le dire, c'est toi qui as la question du jour, c'est toi qui as les sujets, c'est toi qui as tout. Ah, donc je te laisse piloter.
Presque les clés du camion quoi en fait. Non, je plaisante. Non, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé tous les deux, c'est un sujet qui nous semble très important à traiter maintenant. Pour quelles raisons? On va parler de l'alimentation, notamment, alors on va voir qu'on va pouvoir faire beaucoup de liens avec beaucoup de choses, mais le but, ça va être d'évoquer la temporalité de l'alimentation jusqu'à un marathon. C'est-à-dire, voilà, concrètement, on s'inscrit à un marathon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Alors, cette question, nous, on en discute, Bertrand, depuis très longtemps. C'est aussi des choses qui sont dans notre quotidien, d'échanger sur ce qu'on mange, comment on s'alimente. D'ailleurs, on va... Quand les personnes écouteront cet épisode, on aura couru le semi-marathon de Vichy tous les deux. On a tout de suite évoqué l'idée des ravitaillements, de comment on allait s'alimenter, etc. Donc, c'est des choses qui sont au cœur qui sont dans la tête de tous les coureurs. On se pose toujours les questions de qu'est-ce qu'il faut manger et quand. Et cette question, en fait, on s'est dit qu'elle était intéressante pour trois raisons d'être posée maintenant. D'une part, parce qu'elle vient d'un de nos auditeurs qu'on remercie, Sébastien, qui s'est inscrit au marathon de La Rochelle, et qui nous a dit, ben voilà, je me suis inscrit au marathon de La Rochelle. Concrètement, qu'est-ce que je peux faire en termes de stratégie nutritionnelle jusqu'à mon marathon? Donc, ben, cette question, on l'a trouvée très intéressante parce que, bien sûr, le marathon de La Rochelle, c'est un des derniers marathons en France du calendrier, voire peut-être parfois souvent le dernier. Il a lieu plutôt fin novembre. Donc, aussi dans des conditions qui sont particulières, donc on pourra en discuter. Donc, d'emblée, on voit que c'est intéressant parce que Bastien, qui s'inscrit au marathon qui a lieu fin novembre, il se pose déjà la question aujourd'hui de qu'est-ce qu'il va devoir faire en termes de nutrition. Et puis, on s'est dit, ben, OK, quitte à traiter la question de l'alimentation, autant la traiter sur la totalité de la préparation marathon, parce qu'un marathon, ça se prépare pas souvent que sur 10 ou 12 semaines, hein. Ça se prépare parfois des mois en avant parce que c'est un gros objectif qu'on se fixe. Et donc, on s'est dit, bah, OK, on va dès maintenant parler de l'alimentation pour les personnes qui vont faire un marathon d'automne, donc tous les marathons qui vont se dérouler entre globalement septembre, octobre et novembre. Mais on s'est dit, bah, tiens, il y a le marathon de Paris dans 2 semaines. Et donc, pourquoi ne pas faire profiter aux auditeurs qui vont courir le marathon de Paris, ben, d'avoir des connaissances au moins sur ben, la semaine d'avant, parce qu'on va parler de ça beaucoup, le jour d'avant, le matin de la course, et puis la course. Donc on a vraiment cette triple excuse, entre guillemets, cette triple origine de l'épisode. Merci Bastien, les marathons d'automne et... Et puis aussi le marathon de Paris dans 2 semaines. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand?
Bah, c'est une très bonne idée. Le marathon de La Rochelle, je viens de regarder, c'est le 26 novembre. Je n'ai pas regardé la date. Mais
j'aime bien quand tu dis que j'ai des très bonnes idées.
Voilà, donc tu as des très bonnes idées. C'était une très très bonne idée. Je remercie Bastien pour la question.
Voilà, d'ailleurs, elle ne vient pas de moi en fait. Donc...
Bah ouais, mais bon, non, mais si, parce que l'idée de reprendre, de rebondir dessus, de le placer maintenant. Était une bonne idée parce que au début on avait prévu d'autres sujets, on avait dit on va mixer un petit peu, mais c'est vrai que d'avoir cette vision là long terme, je trouve que c'est bien parce que finalement on se dit 8 mois, ça laisse de la marge pour commencer à anticiper avant de se préparer vraiment à courir, d'anticiper un petit peu ce qui peut être des fois pour certains ça peut être un peu équilibrer le poids, ça peut être tout un tas de questions qui peuvent se poser parce que je l'ai vu pour certains pour le marathon de Paris, et j'ai des auditeurs aussi qui sur le marathon de Paris ne le feront pas parce que bah ils étaient un peu juste en timing hein, non pas sur les timings sur les semaines de préparation mais sur ce que j'ai appelé moi tu sais la pré-préparation, c'est-à-dire comment t'es prêt à commencer la préparation, et l'alimentation fait vraiment partie de ce domaine-là. Parce que si t'es bien, alors je vais dire affûté, je sais pas si on peut dire le terme affûté, c'est ça qui me dira, mais si on est bien dans ses baskets au début de la préparation, on a quand même plus de chances que la préparation se passe bien. Voilà, donc c'est bien de prendre vraiment de l'avance. Et puis c'est vrai que dans les dernières semaines, on a toujours ces questions, mais qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que j'ai mangé le dernier jour? Et tout, et je te cache pas hein, que moi pour dimanche, je sais toujours pas ce que je mange au petit-déj. Donc voilà, c'est... à l'artiste.
C'est vrai, on avait dit qu'on en discuterait, mais tiens, on pourra en discuter, tu vois.
Voilà.
En vrai, on va faire une approche un peu chronologique. Les personnes qui vont courir le marathon dans 2 semaines, c'est vrai que cette première partie, alors elle peut vous concerner pour la semaine qui va arriver, parce que finalement, on va parler un petit peu de semaine type, comment on s'alimente, à quoi il faut faire attention. Alors, il y a effectivement un des premiers objectifs qui est important, c'est effectivement, on sait, dans une certaine mesure, et attention, je ne vais pas dire ce que je ne veux pas dire, on sait aujourd'hui que la performance, alors il y a des données hein, là-dessus, il y a des données d'études qui ont été faites sur le lien entre le poids de corps et la performance sur marathon. Alors, c'est assez intéressant, hein. À 1 ou 2 kilos près, on peut gagner, je crois, l'histoire de 4 à 5 minutes sur un marathon.
C'est vrai.
C'est véridique parce que quand j'avais fait mon marathon d'Annecy en 2018, j'avais regardé ça, j'avais trouvé ça. Alors là, j'ai pas la référence sous les yeux, mais ça, c'est un truc qu'on pourra mettre dans les notes de l'épisode parce que je te retrouverai ça, Bertrand, dans le week-end. Mais il existe, il y a des études qui ont été menées effectivement, qui ont démontré un lien très fort entre. Alors, à nouveau, ce sont des recherches en sciences humaines, donc on ne parle pas de lien de cause à effet, mais de corrélation. Vous commencez à me connaître. Donc, ce sont des corrélations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on corrèle. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé les participants à l'arrivée d'un marathon, on a regardé leur temps, on leur a demandé leur poids, tout simplement. Mmh. Voilà, en gros, c'est ça. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que le poids est le seul déterminant ou l'unique déterminant ou est un déterminant majeur en termes de cause à effet. Pour autant, il y a des corrélations. Donc, ça veut dire que sur un temps donné, on constate que les sportifs sont plutôt secs. Et donc, en fait, ce qu'on a constaté aussi, c'est que l'augmentation du temps sur marathon était souvent corrélée à une augmentation du poids de corps. Alors, il y a un décrochage, il faudra qu'on revoie des stats, mais il y avait une histoire de décrochage, il y avait une histoire de palier. Il y a aussi, surtout, et ça, il faut qu'on en parle, alors c'est d'autant plus d'actualité par rapport aux épisodes que tu as enregistrés ces dernières semaines sur les troubles du comportement alimentaire chez les athlètes de haut niveau, les filles, etc. Faut bien se dire qu'il y a un poids entre guillemets, il y a un poids seuil à ne pas dépasser. Hein. Et ce poids, en fait, on est encore en retard, je pense, là-dessus, sur le fait qu'on pense encore à tort que les hommes peuvent être plus secs que les femmes. Au final, tu sais comme moi, avec tous les épisodes que tu as enregistrés sur le REDES, que le REDES est un déficit énergétique, on va en reparler beaucoup aujourd'hui. Mais clairement, le REDES est associé à un poids de corps et à une masse adipeuse beaucoup trop faible. Pour assurer l'ensemble des fonctions physiologiques et notamment dans lesquelles les adipocytes ont un rôle. Parce qu'en fait, les adipocytes, ils libèrent des hormones et ces hormones, elles sont nécessaires au bon fonctionnement de certains aspects de notre métabolisme et donc de notre fonctionnement cellulaire, biochimique, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est je ne suis pas en train de dire qu'il faut à tout prix maigrir pour tout le monde, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le premier point sur lequel je veux venir, c'est. Et là, on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur la balance énergétique et sur comment l'activité physique peut nous permettre de perdre du poids. On a fait un épisode là-dessus. Ça ne sert à rien qu'on se répète. Mais globalement, dans un premier temps, on va dire que l'alimentation est un moyen d'arriver à un poids que l'on pourrait considérer comme étant un poids de forme, ou on pourrait appeler ça aussi un poids cible, optimal, pour le marathon. Ça ne veut pas dire que c'est un poids qui est forcément un poids santé. Il faut bien distinguer ces deux types de poids. Moi, je l'ai vécu moi-même. Hein. Quand j'ai fait mon marathon en 2018, je faisais sans doute 3 ou 4 kilos de moins qu'aujourd'hui, ce qui est beaucoup pour un ratio de poids de corps à 50 kilos, à peu près comme je suis. Effectivement, j'ai vu la différence. Effectivement, ça court plus vite.
Je suis en train de faire des calculs de pourcentage, mais c'est vrai que le pourcentage est énorme. 3-4 kilos sur une cinquantaine, c'est énorme.
Il est plus grand que sur un poids de 80 ou 90 kilos. Voilà. Mm. Et effectivement, la comparaison elle est toute faite. Quand on part courir avec 4 litres d'eau sur le dos, alors bien sûr, c'est pas réparti de la même manière, etc. Mais malgré tout, les 4 litres d'eau, ils sont là. Et quand la petite fiole, elle s'amenuise, ben on sent que les kilos, ils sont moins là. Donc, on voit bien hein, que le poids d'emblée, il a un impact direct sur notre vitesse de déplacement. La problématique du poids aussi dans le marathon, c'est tout ce qui va être lié à la contrainte biomécanique, à la contrainte articulaire. Bien entendu, hein, plus on a de poids, plus on va faire peser de la contrainte sur nos articulations. Et notamment, alors là, on a toujours hein, cette logique qui est très individuelle, hein, les articulations de la cheville, du genou, du bassin, voire du sacro-lombaire. Globalement, il y a des individus qui vont plutôt prendre cher dans les chevilles, dans les genoux ou dans les lombaires. Et il y a des mécanismes d'équilibre ou de déséquilibre qui se produisent selon les individus. Et donc, en fait, on ne va pas forcément avoir des pathologies au même endroit selon... Il y a des gens qui vont compenser des problématiques de cheville avec un quadriceps qui est plus musclé, etc. Et donc, ça va remonter la chaîne. Il y a des gens qui... Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de considérer que oui, le poids est un déterminant malgré tout majeur du marathon. Et ce que je veux dire là aujourd'hui qui me semble important, c'est même dans une logique qui n'est pas une logique de performance. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vraiment cette double logique quand je donne des conseils sur le marathon et que j'accompagne des gens sur le marathon. Mon premier objectif, c'est que les gens ils fassent le marathon trop bien, quoi. Parce qu'en fait, surtout quand c'est notre premier marathon, comme c'est le cas de Bastien, ben le but, ça reste quand même que ça soit un plaisir. Et il faut quand même que le marathon, on en garde une expérience positive. Parce que déjà, il faut se prémunir de tout risque d'abandon. Donc on verra effectivement dans quelle mesure l'alimentation elle est hyper importante. Parce que je le rappelle, hein, 80% des abandons sur marathon sont dus à des déséquilibres, à des désordres intestinaux ou gastriques. C'est un chiffre qui est énorme, énorme. Donc... on voit bien que l'alimentation elle a une incidence directe, mais aussi indirecte sur le fait que ben, si je suis, entre guillemets, plus lourd ou trop lourd et que j'augmente la charge de travail qui est la mienne, mon corps ne va pas aimer. Parce qu'en fait, il va y avoir une double contrainte. Il va y avoir une contrainte biomécanique et physiologique qui est due à la charge d'entraînement, qui est nécessaire avec l'augmentation du kilométrage et l'augmentation des intensités de travail. Mais aussi, bah, y aura une autre contrainte biomécanique due au poids. Et donc, on voit bien d'emblée bah, que oui, malheureusement, et c'est pas anodin si on remet sur la table un sujet d'actualité, un sujet important, on remet sur la table quand même le fait que oui, le poids est un déterminant de la performance. C'est pas anodin si les corps d'athlètes sont maigres. Sauf que, comme je viens de l'exprimer, il faut bien être capable de distinguer son poids santé et son poids cible. Ça veut dire que on peut tout à fait accepter de descendre à un poids qui n'est pas un poids santé pendant une période donnée. C'est pas problématique en tant que tel. Oubliez ces trucs de vous allez casser votre métabolisme ou il va falloir relancer votre métabolisme. Ça ne fonctionne vraiment que pour des personnes qui ont des problèmes de thyroïde ou qui ont des problèmes métaboliques particuliers. On va pas briser son métabolisme parce qu'on va avoir des périodes où on va perdre 2, 3, 4 kilos pour s'assécher, clairement. Et ensuite reprendre une diète qui va revenir. L'exemple le plus marquant, on va dire, ça reste les sports à catégorie de poids. Bien sûr, le judo, la boxe, l'aviron. J'ai découvert grâce à toi, Bertrand, que l'aviron était un sport de catégorie de poids. Qui font des yo-yo mais hallucinants. C'est-à-dire que j'ai vu des reportages parce que je suis passionnée de sport et des reportages. De sportifs qui expliquent vraiment qu'ils vont se mettre dans une diète à sucer des glaçons deux jours avant la compète pour avoir la sensation d'eau. Et derrière, Et même une fois la pesée terminée, ils vont s'enfiler des donuts, c'est des trucs comme ça. Donc, cette problématique du poids, elle est permanente dans le sport. Parce que notre corps, et surtout en course à pied, et surtout sur marathon, notre corps est notre outil de déplacement. C'est notre moyen de nous déplacer. Donc, bah forcément, hein, plus ce corps il a un rapport, entre guillemets, qu'on appelle poids-puissance, qui est favorable. Et donc, qui dit rapport poids-puissance, dit forcément un poids un peu limité. Parce que pour une puissance donnée qu'on va arriver à développer, bah, plus ce poids il sera bas, et plus le rapport il sera positif. Donc ça, déjà, pour moi, c'est vraiment un élément important sur lequel je veux insister. Mais je veux vraiment, toujours dans ma logique de déculpabilisation et dans ma logique de rassurer, oui, il existe un poids santé et oui, il existe un poids cible de compète, mais non, ce n'est pas grave d'avoir deux poids différents, d'avoir des fluctuations. C'est ça que je voulais dire. Avec les sportifs de haut niveau, c'est pas un problème. On ne va pas se rendre malade, casser son métabolisme, à avoir des périodes de sèche, à avoir des périodes où on va chercher un petit peu à s'affûter. Et j'ai presque envie de dire que finalement ces périodes de sèche elles sont naturelles et elles vont venir aussi naturellement. Alors je parle de 2-3 kilos, hein. Je parle pas des personnes qui vraiment doivent perdre du poids pour. Et on va en parler après parce que ça reste quand même une spécificité. On va s'assécher naturellement parce que le volume d'entraînement va augmenter, donc globalement normalement la dépense énergétique au global elle va augmenter et donc bah, la balance énergétique sera plus en faveur de dépenses que d'apport. Maintenant, effectivement, je pense que c'est important, Bertrand, qu'on évoque un tout petit peu la question du surpoids et du marathon. Je ne sais pas si tu veux partager des choses,
parce que
c'est une thématique que tu connais bien.
C'est une thématique. J'ai encore rappelé ce matin à un invité potentiel. Tu connais pas le nom, je le dirai même pas, mais ça va être quelqu'un qui a été, je lui dis j'ai perdu 30 kilos, il avait pas tilté que j'ai perdu 30 kilos dans ma vie. Et effectivement, je me sentais pas de courir un marathon à 105 kilos. Sincèrement, et même à 90 kilos, et j'étais quand même assez content que la veille du marathon, je sois à 78 sur ma balance, parce que j'ai eu cette sensation-là, en fait. Et tu sais, ce qui m'a le plus marqué quand même, c'est que pendant la préparation, moi, j'ai pas fait gaffe parce que je mangeais, etc. Il y a quelqu'un du club qui m'a dit, eh oh, dis donc, tu t'es vachement affûté, toi. Je dis, bah, écoute, j'ai l'impression que je mange plus, mais effectivement, j'étais passé avec, je sais pas, j'avais 1 heure, 2 heures, 3 heures, 6 heures, 7 heures d'entraînement par semaine, au lieu de faire 3-4 heures. Donc, logiquement, à un moment donné, je me suis affûté. Et c'est vrai, il y a un truc qui est drôle, par contre, c'est que je dis que j'étais 78 ou 78,5 dans la balance 2-3 jours avant. Par contre, les deux jours, juste avant, tu sais, la veille, je me suis rendu compte, j'avais repris un tout petit peu. J'étais un peu goinfré, tu sais, les trucs, enfin, à l'époque, pâtes et tu vois, les trucs comme ça. Mais ça m'a pas gêné. Mais par contre, quand on regarde les photos, effectivement, je me suis rendu compte sur la photo du marathon, au départ, que j'avais rarement été aussi sec par rapport à mon poids et aussi peu enrichi en matière grasse. Et effectivement, je trouve que j'étais plus à l'aise pour courir, je suis plus à l'aise pour accélérer. Et là, je le sens. Hein. Tu sais, j'ai perdu 4 kilos depuis le début de l'année en faisant du vélo, à force de faire du vélo 4 fois par semaine et de courir 7 fois par semaine. Et ben, j'ai perdu pas loin de 4 kilos en 3 mois, tu vois, à peu près dans cette zone-là. Donc, je suis à 1 kg, 1,5 kg de moins par mois, à peu près dans cette zone-là. Et ben, tu sais quoi, je me sens quand même vachement mieux pour accélérer. Je sens que j'ai de la vitesse. J'étais surpris l'autre jour, mon trail de dimanche dernier. Je suis surpris au départ de ma vitesse sur les premiers kilomètres et sur les derniers kilomètres qui sont très loin, très bien, en vitesse, beaucoup plus rapide que ce que je faisais il y a un an où je faisais, ouais, 3-4 kilos de plus, tu vois, ou même en fin d'année. Donc, ça joue. On le sait que ça joue, forcément que ça joue.
Ouais, c'est chouette. Donc toi, en fait, quand t'as fait ton marathon, t'avais déjà perdu tout le poids que tu devais perdre ?
Eh ben, moi, en fait, je suis passé de 105 à 90. À 90, j'ai dit, et si je me mettais à courir ? Et là, je me sentais quand même lourdeau, tu vois, dans l'histoire. Je me dis, voilà. Mais en fait, quand je faisais à côté du HIIT, du fitboxing, des trucs cardio, en fait, je me suis rendu compte que sur le plan cardiaque, j'avais vraiment gagné en capacité à bouger, tu vois, à bouger vraiment plus mon corps. Mais j'avais encore le poids. Et en fait, le fait de courir après, derrière, ben, ça m'a permis de continuer à grappiller. Et puis, je suis resté très longtemps stocké sur un poids. Je l'ai même dit d'ailleurs dans un de mes podcasts que j'ai sur mon blog. Et je disais, j'arriverai jamais à passer sous la barrière des 80 kilos, qui était la barrière symbolique pour moi de dire, si je passe sous les 80
t'as
kilos...
T'as commencé ta prépa, t'étais à 80?
Ah, j'étais un peu plus que ça. Hein. Franchement, pendant que tu parleras, je regarderai tout à l'heure si tu veux, je te donnerai le chiffre. Mais je devais être à 82, 83, tu vois. Ouais, ouais, tu vois, dans ces conneries.
Mais t'es un exemple intéressant. Tu fais partie de ces gens qui se sont affûtés. Maintenant, il y a des personnes qui s'inscrivent au marathon, peut-être aussi pour se donner un défi. En se disant, donc des personnes, on va considérer en surpoids. On va être objective, avec des données objectives relatives à l'IMC. Là, il faut être très prudent. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, il faut faire attention à ne pas cumuler des objectifs. Et je l'ai toujours dit, on peut avoir un objectif de performance, un objectif de santé, mais c'est difficilement conciliable les deux. Donc là, je mets tout de suite un tout petit feu orange. Si jamais vous vous êtes inscrit sur un marathon, vous avez du poids encore beaucoup à perdre, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner, ne faites pas ça tout seul, parce que le risque, c'est vraiment de tomber dans, dans une forme de surentraînement qui peut être plutôt associée peut-être presque à du burn-out physique, dans le sens où le corps, vous allez lui demander une charge physique, vous allez manger beaucoup moins, donc il va y avoir un déficit énergétique, et s'entraîner sur du déficit énergétique, c'est pas bon. On peut pas perdre beaucoup de poids juste en augmentant sa charge d'entraînement, on le sait. Donc on ne pourra pas continuer à perdre beaucoup de poids parce qu'on s'est inscrit à un marathon, c'est pas vrai. Surtout que la plupart du temps, quand les personnes qui débutent le marathon s'inscrivent sur un marathon, les charges d'entraînement, les volumes d'entraînement, ils sont pas conséquents. On est à 40 km dans la semaine, 3-4 sorties, et puis voilà quoi. Donc vraiment, attention à ça. Moi, le conseil que je donnerais là-dessus, ça serait de faire deux phases, en fait. Ça serait de faire une première phase, si jamais c'est un marathon de d'automne, hein, parce que si c'est un marathon de printemps, c'est un peu foutu maintenant, mais... Si le marathon, il est dans vraiment beaucoup de mois, je vous conseille vraiment, si vous êtes dans cette situation de gros surpoids, de faire une première période de sèche, de continuer de perdre du poids, tout en intégrant de l'activité physique, mais à des fins de santé. C'est-à-dire, le but, c'est d'augmenter un maximum le NIT et d'augmenter un maximum la dépense énergétique d'activité et de non-activité, et aussi de bien gérer vos apports alimentaires. C'est comme ça que vous perdrez du poids en combinant les deux. Et une deuxième partie, d'avoir une préparation spécifique au marathon, tout en réintégrant et en rééquilibrant la balance énergétique en faveur d'un équilibre, et de ne plus être dans un déficit trop important. Parce que sinon, ça va induire de la contrainte. Donc on voit bien que sur tout l'avant, bien sûr que l'alimentation, elle va être liée grandement à la question du poids, mais pas que. Le deuxième point sur lequel moi je veux insister, c'est qu'en fait, adopter une alimentation entre guillemets dite saine et de performance, ça prend du temps. Et en fait, le corps, il va mettre du temps à intégrer cette alimentation et aussi à se rééquilibrer. Alors, je parle pas forcément de personnes qui ont des carences ou quoi, hein, mais tout simplement, il faut envisager le fait que l'alimentation va devenir votre premier carburant à l'effort dans une préparation comme ça. Et globalement, une préparation sur du long terme, donc on peut penser aux personnes, hein, qui font les marathons d'automne, le but, ça va être de maximiser là, on va dire jusqu'à l'été, du volume, augmenter du volume, augmenter la charge d'entraînement, augmenter la dépense globale, hein, ça peut être de la marche, ça peut être du vélo avec de l'entraînement croisé. Il y a beaucoup de gens qui se déplacent en vélo pour aller travailler. Tout ça, c'est intéressant. Donc, on augmente du volume de pratique. On augmente du temps passé à des intensités faibles à modérées, voire intenses, hein, mais on augmente ce temps d'activité physique au global. Que ça soit de la course, du vélo, de la marche. Mais donc, globalement, il y a ça. Ça veut dire que derrière, il faut un carburant. Et ce carburant, on sait aujourd'hui, hein, qu'une calorie ne vaut pas une calorie, qu'une calorie de riche en micronutriments et en macronutriments, c'est mille fois mieux qu'une calorie vide. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? On sait que plus le produit il est raffiné, ultra transformé, plus il va être dépourvu de minéraux, de micronutriments et de macronutriments. Typiquement, on prend une chips et on prend de la pomme de terre, on est sur le même ingrédient de base. C'est... Non mais si, même. Je non, sais que c'est caricatural, mais, prendre un mais la chips, en fait. Non, la chips, c'est l'ultra transformation de la pomme de terre. On peut pas faire plus ultra transformé au niveau de la pomme de terre. Dans la pomme de terre, il y a encore une pomme de terre cuite à la vapeur. Il y a plein de minéraux, il y a beaucoup de macronutriments, il y a des bons glucides, il y a de l'amidon qui est intéressant, surtout si on fait refroidir la pomme de terre et qu'on la mange froide, parce qu'il y a ce qu'on appelle la rétrogradation de l'amidon. Donc on va avoir une baisse de l'index glycémique, donc c'est intéressant. Donc la pomme de terre en tant que telle, c'est un aliment qui est plutôt sain parce qu'il est brut, alors que la chips, elle est ultra transformée. Et donc, pour un même aliment, on va pas apporter les mêmes minéraux. Et pour autant, on pourrait apporter tout autant d'énergie avec une pomme de terre et avec quelques chips.
Mais tu sais que ce sujet-là de la pomme de terre et tout, on va en reparler dans pas longtemps dans Sport et Nutrition. Alors, je peux pas dire trop avec qui, l'invité, etc. Mais c'est un vrai sujet intéressant. Mais on parlera pas du tout de marathon. Parce que c'est pas quelqu'un avec qui on parle vraiment de sport, mais on parlera par contre de nutrition et de certains éléments de nutrition. Donc, et je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Puis, tu sais, moi j'ai une théorie sur la chips. C'est que comme ça craque, on a tous envie de manger des chips. Mais c'est vrai que c'est l'ultra transformé, hein, ça nous attire, mais c'est vrai que parfois, il faut savoir faire une croix dessus.
Ah, t'as raison, en fait, tout ce qui craque, c'est souvent que ça a été ultra transformé. Donc voilà, ce qu'on voulait dire là-dessus, c'est que plus l'aliment est ultra transformé, moins il est riche en minéraux, et donc il faut toujours avoir cette logique. Donc pendant la prépa, marathon, pendant tout au long de la prépa, le plus important, c'est d'avoir une balance énergétique qui est équilibrée, et aussi d'avoir un apport en vitamines, minéraux et macronutriments qui est important. Alors, je m'explique. On ne va pas refaire toute la théorie de l'équilibre de la balance énergétique. On vous renvoie vraiment à l'épisode qu'on a consacré là-dessus, mais on voit bien du coup le transfert et tout le lien entre tous les épisodes, et je trouve ça important de le souligner. Donc, globalement, il faut équilibrer sa balance énergétique. Ça veut dire qu'il faut être soucieux de se dire combien de calories à peu près je dépense par jour et combien de calories du coup il faut que j'ingère. Alors, comment on calcule à peu près les calories qu'on dépense, surtout quand on est en prépa marathon? Bah aujourd'hui, on a des montres qui sont quand même relativement bien faites. Alors, qui peuvent se tromper, hein, quand on bat des œufs, elles pensent qu'on est à 180 cardio parce qu'il y a un accéléromètre dans le poignet. Et malgré tout, ce que je dis toujours, moi, c'est que c'est un bon indicateur en termes d'évolution. Parce qu'au final, on peut faire un peu des moyennes. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, dans ces montres, c'est qu'on va pouvoir avoir une approximation globale de ce qu'il faut qu'on mange. Et en fait, moi, je dis toujours, il faut faire des tests sur soi-même. C'est-à-dire, on prend une ration donnée, on essaye de stabiliser un peu des rations, un peu des repas, etc. C'est ça qui est important, en fait. Et on voit si oui ou non on prend du poids ou on perd du poids ou on stabilise. Et en fait, c'est ça l'idée. C'est simplement d'essayer de faire une corrélation, pour le coup, entre ce que l'on mange et son poids. Donc, ça veut dire qu'en fait, il faut suivre son poids régulièrement. Et aussi, il faut suivre ses apports alimentaires régulièrement. Alors pour ça, il y a des applications qui sont vraiment très bien faites. Je ne sais pas si on peut donner des marques, mais il y a plein d'applications gratuites.
Vas-y, dis-le.
Bah moi, j'utilise et je conseille d'utiliser Foodvisor, qui est pas mal. C'est une appli qui est gratuite, qui a une partie gratuite, qui est très très bien. Pourquoi j'utilise celle-là? Je la trouve très facile à utiliser. Et aussi, elle compte les fibres, ce qui est rare. Les fibres, on va voir que ça va être nos amis sur la grosse partie de la prépa, et elles vont devenir nos ennemis à partir de la dernière semaine. Donc, c'est important d'avoir les fibres. Les fibres, c'est un élément santé ultra important et qu'on a trop tendance à minimiser. Donc, du coup, moi, je conseille cette appli. Ça permet de compter les calories, ça permet d'avoir un petit peu un état des lieux de ce qu'on mange, parce qu'on a tendance à toujours minimiser nos apports énergétiques à intégrer. Ingérer. Et on a toujours tendance à majorer nos apports énergétiques, nos dépenses énergétiques. Donc en fait, on voit bien que rien qu'avec notre seul jugement personnel, on est trop subjectif et on va trop souvent aller vers une balance énergétique qui va être déséquilibrée. C'est pour ça que la plupart des Français et des gens sur Terre prennent du poids, parce que comme on vit dans une société de l'abondance, dans laquelle on n'est pas restreint en fait par des apports qui nous sont imposés, ben, on mange ce qu'on appelle à volonté, satiété, à notre envie en fait. Et au final, je pense qu'on a tous en nous cette volonté malgré tout de contrôler notre poids, à quelques exceptions près. Hein. Personne n'aime se voir prendre du poids, je pense. Et pour autant, il y a des gens qui continuent de prendre du poids. Et donc la question, en fait, c'est pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ce fameux jugement négatif, biaisé, de ce déséquilibre. Donc voilà, moi ça, je pense que c'est important de le dire. Et donc de bien avoir en tête qu'il faut bien gérer sa balance énergétique.
Mais tu sais, j'ai regardé quelque chose quand même. Je te coupe, je suis désolé, mais j'ai regardé quelque chose. Et j'ai fait deux préparations dans marathon dans ma vie. Enfin, en fait, j'en ai fait trois, mais j'ai couru qu'un marathon. La première, je m'étais blessé. Et ben, j'avais commencé la préparation marathon quand même à 85 kilos, tu vois. Alors, c'est magique, les applications. Et je l'ai terminé à 82 kilos, tu vois, dans ces zones-là. Donc, j'avais perdu 3 kilos. Et sur la deuxième préparation marathon, j'ai perdu 2 kilos. Alors que j'étais quand même plus bas, tu vois, déjà, j'étais un peu plus bas. Et en fait, ce que je me rends compte surtout, c'est que ça tapait dans la graisse, en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, la variation, elle est plus... c'est vraiment les pourcentages de graisse qui ont vraiment varié. Et ça explique aussi pourquoi les gens me disaient « Ah bah tiens, t'as perdu des joues, tu vois, les trucs dans ce genre-là, en fait. » Donc, c'est vrai que... Et alors, la troisième préparation marathon, qui est elle, il y a eu le Covid, je peux pas te dire, j'ai pas le chiffre, parce qu'elle a duré que 6 semaines. Et en 6 semaines, je pense que j'ai pas eu le temps de trop m'affiner, même si je peux regarder. Ouais, j'étais léger quand même. À l'époque, j'étais léger, tu vois. J'étais beaucoup plus léger. Donc, quoique, tu vois, bah, sur les 6 semaines, j'avais quand même perdu 1 kilo. Si tu as besoin de le retrouver, j'ai quand même perdu 1 kilo. Donc, comme quoi, c'est vrai que ça va assez vite parce que la dépense énergétique, elle augmente très rapidement. Et c'est vrai que tu as raison qu'il faut le souligner, de surveiller, parce que si on continue à manger normalement sans et en s'entraînant plus, il y a un moment, il y a un problème, quoi.
Si on part avec un poids, entre guillemets, proche du poids de forme, il ne faut pas forcément perdre beaucoup de poids. Mais moi, dans mon cas, je ne suis pas sûre que c'était forcément très bien d'avoir perdu autant de poids que j'ai perdu pendant ma prépa. Mais en fait, alors je vais y venir, parce qu'en fait, il y a des problématiques. Donc là, on était vraiment sur la première partie, où on est sur une, on va appeler ce qu'on pourrait appeler une préparation très générale, très foncière, où on n'est pas encore dans la prépa de la prépa. Maintenant, on va basculer dans la deuxième temporalité de l'épisode, c'est on démarre la prépa spécifique. Donc, bah, pour ceux qui sont dans le marathon de Paris, vous y êtes, vous êtes sur la fin, vous êtes même presque sur la période qu'on appelle d'affûtage. Pour les gens qui vont démarrer un marathon d'automne, eh ben, ça sera les 14, 12, 10 semaines, globalement, avant le marathon. Donc, le volume, il augmente considérablement. L'intensité, le temps passé à l'heure marathon augmente considérablement. On va faire des sorties longues, donc, dans lesquelles on sait qu'à un moment donné, nos substrats énergétiques suffiront toujours, hein, on s'entend, mais ne suffiront plus pour rester à des intensités de travail élevées, d'accord ? Et donc, il va falloir apporter, pendant cette période, plus de quantité d'énergie, en qualité aussi, et aussi pendant s'alimenter pendant l'effort. Alors, je vais rester d'abord sur l'alimentation du quotidien, après, etc. C'est quoi une alimentation sur quoi, en fait, je vais pas te donner un plan alimentaire parce que ça serait totalement nul, parce que ça, c'est vraiment propre à chacun, à son poids, à sa dépense énergétique globale, à tout un tas de choses. Mais il y a des éléments de focus, on va dire, qui sont importants. Sur le plan des macronutriments, bien entendu, les protéines restent quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que on va avoir tendance à casser beaucoup de fibres musculaires. Or, ce sont les protéines qui vont permettre de reconstruire les fibres, donc de mieux récupérer. Les protéines contribuent également à la prise de masse musculaire, donc on voit bien qu'elles sont directement impliquées dans la performance, pour le coup. Les protéines, comment on les calcule? On dit souvent qu'il faut fluctuer entre 1,6 et 2 à 2,2 grammes, pour les gens qui veulent prendre de la masse, grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc c'est facile de faire le calcul. On multiplie 1,6 par son poids de corps et on obtient le nombre de grammes de protéines dont on a besoin par jour. Sur un marathon, moi, je conseille toujours d'être à 1,8 à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc, dans l'appli Foodvisor, ce qui est cool, ouais, c'est beaucoup, tu fais un peu la moue, mais ouais. En fait, ça reste une alimentation protéinée, mais dans laquelle, en fait, tu vas vraiment permettre à ton corps de récupérer, au final. Et ça va t'éviter, parce que je te vois faire la moue, donc je réponds à ce que Bertrand, à la petite moue de Bertrand, mais ça va vraiment permettre de limiter aussi les compléments alimentaires, parce que moi je suis pas pour, je suis pour le complément alimentaire, je suis pour les compléments alimentaires, mais en cas de besoin. Et en fait, je pense que on peut pas toujours arriver à avoir une alimentation saine sans complément alimentaire, mais si on peut essayer d'y arriver, voilà. Et en plus, il y a pas forcément toujours une bonne assimilation des protéines. Donc c'est pas parce que tu vas en prendre 2 grammes par kilo de poids de corps que tu vas assimiler ces 2 grammes par kilo de poids de corps, tu vois.
Alors si je faisais l'amour, en fait, c'est sur la quantité que ça demande de manger certaines choses, etc. Parce que tu te rends compte, par exemple, faut être honnête, un blanc de poulet, si tu achètes 100 grammes de blanc de poulet, t'as pas 100 grammes de protéines dedans.
Non, t'as 20 à 25 grammes de protéines selon la...
Ouais, mais donc ça veut dire qu'on y arrive vite, mais pas si vite que ça,
je veux dire. On a trop cette représentation que les protéines n'existent que dans les protéines animales. Déjà, on peut intégrer des protéines dans son petit déjeuner. C'est facile. On prend un œuf, on prend une tranche de jambon, on prend du fromage blanc, on prend du soja, on prend... Les soja, je rappelle, pas pour les femmes, surtout pas proche de la ménopause et surtout pas si on a des problèmes de dérèglement hormonaux, mais dans d'autres conditions, à la limite. Donc, on a plein de sources de protéines qui sont intéressantes. Moi, je vois en ce moment, je suis une grande fan de houmous. Je peux manger du houmous le matin au petit-déj.
Ah oui, moi aussi.
Le houmous, pourquoi c'est ultra protéiné? Parce qu'en fait, c'est des pois chiches et les pois chiches, c'est des légumineuses. Donc, je vais y revenir après. Donc le matin, on met une petite source de protéines, qu'elle soit animale ou en termes de, voilà, comme j'ai dit, œufs, jambon ou yaourt. On peut regarder à prendre des fromages blancs qui sont plus riches en protéines que des yaourts, par exemple. Alors, juste petite parenthèse sur le skyr, pour faire simple, hein, pourquoi dans le skyr, il y a plus de protéines que dans un fromage blanc normal? C'est juste qu'il a été plus égoutté, en fait. Donc, au final, vous rajoutez de l'eau dans votre skir, bah, vous avez, voilà, vous avez une dense. En fait, c'est l'histoire de volumétrie, c'est une histoire de volume alimentaire. Hein. Voilà, c'est un fromage blanc qui a été plus séché, donc c'est pour ça qu'on a plus de protéines en termes de densité de poids d'aliments. Le midi, ben moi je suis pour mettre la protéine animale le midi parce que je trouve que le corps le digère mieux, qu'on va l'utiliser l'après-midi, c'est ma conception. Donc le midi, ben une bonne ration de protéines animales. On peut sur le dessert revenir avec de nouveau un apport énergétique. Que ce soit avec un gâteau fait maison, protéiné, ça va vite. Hein. Tu fais un gâteau au fromage blanc, t'as des œufs, du fromage blanc dans le gâteau, ça peut te faire un dessert ultra sain et en même temps protéiné. Je crois moi, déjà t'y es. Enfin, pour une femme, t'y es. Alors après, pour les hommes, vous c'est un peu plus difficile, mais de toute façon, vos apports énergétiques globaux, ils sont plus importants que nous. Ensuite, il y a la collation de l'après-midi. Et à nous d'être malins et de mettre de la protéine dans la collation de l'après-midi. Et là, c'est là où moi, j'autorise ce fameux écart entre guillemets du produit non brut, un peu plus transformé. Je trouve que c'est bien d'utiliser, par exemple, de la whey ou de la protéine en poudre au goûter. Parce qu'en fait, clairement, ça permet d'avoir un apport de protéines à ce moment-là et ça permet vraiment de limiter la fringale de la fin de journée. Moi, c'est un des seuls tips que j'ai trouvé pour limiter cette fringale de la fin de journée et me permettre aussi d'aller m'entraîner le soir. Alors, c'est marrant, ça sera un épisode qu'on fera plus tard. Mais, ouais. Là, attention, juste, voilà, bien choisir sa protéine. Je sais pas si on rentre dans le détail, Bertrand, ou...
Alors, on a prévu de faire un épisode sur le choix des protéines. On en parlera, on fera un épisode spécifique là-dessus.
Ouais, ça marche.
Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, etc. Mais c'est là, tu sais, moi, je vais mettre ma couche de beurre de cacahuète quand même dans l'histoire. Mais moi, au goûter, mon beurre de cacahuète, je l'avais aussi intégré pour ça, pour justement l'apport en protéines. Mais après, ça peut être amandes, ça peut être des choses comme ça, en fait. Hein.
Ouais,
mais...
alors... Bon, on y revient à ça. C'est-à-dire que oui, il y a des protéines, mais aussi surtout beaucoup, beaucoup de lipides. Je suis pas contre le beurre de cacahuète, tu le sais bien, hein, j'adore ça. Et d'ailleurs, tu sais très bien que j'ai un petit pot pour toi, mais le beurre de cacahuète, c'est top. Et voilà, mais attention, le problème du beurre de cacahuète, c'est le ratio entre la quantité de protéines et la quantité de lipides. Donc oui, c'est très bien, c'est très cool. Le matin aussi, ça peut faire l'objet d'une bonne source de lipides, pas de souci. Mais attention, donc... bien au goûter, pas de problème, pour le côté plaisir aussi, hein, le côté sympa, toujours cette règle du 80 sérieux et 20% de plaisir, mais derrière, attention à avoir un vrai apport de protéines, entre guillemets, peu gras, quoi. Et puis le soir, bah, facile, en fait, le soir, on peut avoir la protéine avec un petit morceau de fromage, on est quand même le pays du fromage, alors il faut aimer le lait, je vais y venir après aussi, il y a d'autres problèmes avec ça, mais... le soir, ça peut être des légumineuses, ça peut être un repas végétarien avec des légumineuses, ça peut être des petits falafels, ça peut être des petites galettes de lentilles, des dalles, des lentilles carottes. Il y a tout un tas de plats. Le seul point sur lequel il faut être vigilant, c'est que quand on mange des légumineuses, pour avoir une assimilation protéinée complète, il faut le manger avec des céréales complètes pour avoir l'ensemble du spectre des acides aminés. Sinon, les protéines ne sont pas entre guillemets totales, parce que la protéine, en fait, c'est quoi? C'est un assemblage d'acides aminés. Et en fait, dans les légumineuses, il n'y a pas tous les acides aminés nécessaires à la construction d'une protéine humaine. Voilà. Et donc, il faut les associer à des céréales complètes. Le quinoa, le boulgour, la semoule complète, le riz complet, les pâtes complètes, il y a tout un tas de choses. Après, ça dépend des sensibilités de chacun, ça dépend aussi de ce que je vais dire. Le deuxième point, c'est-à-dire qu'on peut avoir une alimentation qui est très cohérente, très très saine, etc. Mais la prépa marathon va avoir des incidences pour certaines personnes sur nos modalités de nous alimenter. Il y a plusieurs choses. D'une part, l'augmentation du volume va avoir souvent des répercussions sur la sensation de satiété. On observe deux types de mécanismes. Soit on a beaucoup plus faim, ce qui est souvent le cas et ce qui est plutôt logique, plutôt sain, normal, on va dire. J'aime pas le mot normal, mais plutôt cohérent. On augmente le volume, on augmente la dépense, on a plus faim. Bon, c'est mathématique. Donc, dans ce cas-là, à la limite, j'ai envie de dire, ça pose pas trop de problèmes. Le problème, c'est que quand on commence à surcharger l'organisme, je parle pas de surentraînement, je parle de surcharger l'organisme. Un des premiers, symptômes ou indicateurs, c'est la diminution de l'appétit. c'est la diminution de la sensation de faim. Ça, c'est un des premiers signes cliniques que l'on met en évidence chez les personnes qui vont être en surentraînement et parfois aussi sur ce qu'on peut appeler aussi du burn-out physique, par exemple. Donc attention, si vous commencez à constater une diminution de la sensation de faim, c'est sans doute que la charge d'entraînement est peut-être trop importante. Il y a aussi des problématiques, c'est qu'en fait, l'activité physique va donner faim à certains moments et va limiter la faim à d'autres moments. Et là, c'est très inter-individuel. Moi, je sais que je rentre d'une séance, je peux me jeter sur tout ce qui existerait en termes d'alimentation autour de moi. J'ai super faim. Et il y a des gens qui verbalisent le fait que dans l'heure qui suit l'entraînement, ils n'ont pas du tout faim et vraiment et complètement noués. Donc, on voit bien qu'on est tous différents. Et donc, on voit bien qu'il faut prendre ces problématiques de manière individuelle et aussi, voilà, interroger ça. Pour moi, le deuxième, entre guillemets, effet négatif ou limitant de la prépa marathon, c'est le fait qu'au-delà de la modulation de la sensation de satiété, on a parfois des problèmes, on va dire, d'ordre gastrique ou intestinaux qui apparaissent au fur et à mesure de la prépa. Comment ça s'explique? En fait, quand on court, enfin, je veux dire quand on fait beaucoup de sport, et quand on court particulièrement parce que les chocs exacerbent ce processus, on va avoir tendance à dégrader notre muqueuse intestinale. La muqueuse intestinale, en fait, elle est normalement tapissée d'un ce qu'on appelle un biofilm qui est protecteur. Donc une muqueuse intestinale qui est en bonne santé, toute la muqueuse, elle est tapissée d'un biofilm. Pourquoi? Parce qu'en fait, normalement, c'est une membrane qui est plus ou moins poreuse, qui va permettre des échanges entre l'extérieur et l'intérieur de l'intestin, mais entre guillemets, de bonnes bactéries, ce qu'on appelle le microbiote, la flore vaginale, etc. Et la problématique, c'est qu'en fait, la répétition des chocs, la durée de l'effort et l'épuisement en fait, des ressources énergétiques va induire l'exacerbation de la porosité intestinale. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, les bonnes bactéries qui sont collées sur la muqueuse pour tapisser ce biofilm, ben en fait, elles se libèrent parce que elles n'arrivent plus, elles ont besoin d'aller nourrir des choses, et donc il y a des trous qui vont se créer dans la muqueuse intestinale. Quand il y a ces trous, ben c'est là où on parle de porosité intestinale. Alors ça, il y a des gens qui ont ça sans faire de sport, hein. Il y a des gens qui ont ça sans avoir une prépa marathon, hein. Ça fait partie des âges de la vie, l'appauvrissement de notre flore bactérienne, c'est des phénomènes qui sont normaux. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer. Il y a le stress, la pollution, il y a le manque de sommeil, il y a tout un tas de choses. On sait aujourd'hui le rôle de microbiote. Je renvoie à des épisodes que tu as déjà fait là-dessus. Hein.
Et ben, le prochain épisode de Sport et Nutrition, probablement. Probablement. En fait, il est enregistré, je ne sais pas la date de publication, mais on parle avec un spécialiste du microbiote et qui explique tout, et qui explique justement ces facteurs qui viennent perturber le microbiote. Donc là-dessus, il y aura une belle heure d'explication. Et d'ailleurs, on parle des fibres aussi, de certains problèmes des fibres que ça peut poser, mais...
Voilà. On va y venir. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est que c'est... Donc j'ai expliqué l'histoire de la porosité intestinale, et qu'est-ce qui se passe? Je vais y venir à l'histoire des fibres. En fait, s'il y a des trous qui se créent sur la muqueuse, en fait, il y a des mauvaises bactéries qui vont venir sur le trou, rentrer dans le trou et tapisser en fait la membrane. Ce qui fait qu'on va avoir ce fameux déséquilibre du microbiote dans le sens où on va avoir plus de mauvaises bactéries que de bonnes bactéries. Parce que normalement, il devrait y avoir plus de bonnes bactéries. Et donc, c'est ça qu'on appelle une dégradation de la flore intestinale. Alors, ça marche dans toutes les flores, hein, qu'elles soient vaginales, au niveau de la bouche, ça marche dans plein d'endroits. En l'occurrence, nous, c'est l'intestin. Le problème, il est où? Le problème, il est que quand on court, en fait, on va envoyer beaucoup plus de sang à nos muscles qu'à nos intestins. Donc, en fait, c'est un petit peu comme si on mettait nos intestins en sous-régime. Et le corps, il n'aime pas ça. Hein. Il n'est pas débile, j'aime cette expression, mais il n'est pas dans un mode d'autodestruction. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va lui demander de s'alimenter pendant l'effort à moindre régime. Il va dire « no way », quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des désordres gastriques qui s'opèrent, parce qu'en fait, lui, il n'arrive juste pas à gérer, quoi. C'est un peu comme si, dans une usine, on était en mode restreint et qu'on disait « travailler deux fois plus », quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, on voit bien la métaphore et on comprend bien que l'intestin ne peut pas gérer. Quel est le lien entre la muqueuse intestinale? Alors, je vais essayer de ne pas raconter trop de bêtises, hein, parce que s'il y a ton invité qui a... Mais bon, pour juste qu'on comprenne, quel est le lien entre les fibres? En fait, les probiotiques se nourrissent de fibres, que l'on appelle aussi les prébiotiques. En fait, c'est les fibres qui permettent d'entretenir, de maintenir, d'avoir non seulement la diversité des bactéries, mais aussi leur nombre au sein des colonies, quoi. En fait, c'est l'idée au sein de chaque famille, elles sont d'autant plus nombreuses qu'on leur donne des fibres et on peut augmenter le nombre de familles avec les fibres. Alors, la particularité, c'est qu'on ne va pas arriver à re-ensemeler. Oh, j'arrive jamais à dire ça. On va pas repeupler la flore avec de nouvelles.
Voilà, repeupler.
Merci. Voilà, la flore avec de nouvelles bactéries si on les a perdues. Et donc, c'est là où le rôle des probiotiques est nécessaire et peut être très important. Mais les fibres constituent donc des prébiotiques qui sont eux-mêmes les aliments des bactéries et donc des fameux probiotiques. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui peut se passer ? En fait, moi, avec l'expérience, je constate maintenant qu'il y a pas mal de personnes, quand on les place dans une logique de prépa marathon, qui développent des formes, attention, je mets des gros guillemets, d'intolérance. Je dis pas qu'elles développent des maladies vis-à-vis de ça, mais elles développent des plus grandes sensibilités, je vais dire. Voilà, je vais prendre des pincettes parce que je voudrais pas que ça soit surinterprété et j'en fais totalement partie. Donc, pour le coup, je sais exactement de quoi je parle. À partir du moment où je me mets dans une charge d'entraînement de type marathon ou un gros truc, hein, que je me mets à courir beaucoup ou quoi, caisse, je vais beaucoup moins tolérer le gluten. C'est-à-dire que je pense qu'au départ, j'ai une sensibilité au gluten qui est limitée. Je pense parce que j'en mange très très peu. Je mange du pain de seigle que le matin. C'est le seul apport de gluten de ma journée. Donc, je peux pas savoir si je le tolère bien ou pas. Mais ce que je constate, c'est que pour un même apport de gluten, quand je suis dans une prépa marathon, je peux faire aucun écart. Et derrière, je peux pas me permettre d'avoir mangé dans ma journée une autre source de gluten. Sinon, c'est la catastrophe absolue. Pour autant, j'ai pas de maladie, j'ai pas d'intolérance particulière. Mais je pense qu'en fait, c'est des sensibilités à. Et en fait, c'est tout simplement dû, je pense, à l'explication que je viens de donner. C'est que dans ce temps de la prépa, on affaiblit un petit peu ce fonctionnement de la muqueuse intestinale et donc de nos intestins. Et donc, c'est le conseil que je donne. Hein, si jamais vous ressentez ce type de perturbation, bah, n'hésitez pas à vous complémenter en probiotiques pour repeupler un peu la flore. Et puis manger du coup plus de fibres, aller vers beaucoup plus de fibres, une diversité de fibres. Il y a les fibres solubles et les fibres non solubles, donc c'est pas tout à fait les mêmes. Vraiment intégrer beaucoup plus de fibres dans votre alimentation. Les légumineuses sont des sources de fibres qui sont magnifiques. Et n'hésitez pas à aussi manger des légumes comme les crucifères qui présentent des fibres qui sont très intéressantes pour la flore. De la même manière, il y a des gens qui développent ce type de grande sensibilité avec le lactose. Mmh. Voilà. Il y a des gens qui sont pas trop intolérants au lactose ou s'en sont pas trop rendus compte. Et puis, prépa marathon, le lactose, on le tolère tout simplement parce que l'organisme, il est en difficulté, en fait, pour faire son travail. Parce qu'on lui met une double contrainte. On lui met la contrainte quotidienne. Peut-être avec une flore qui fonctionnait pas très très bien, mais on s'en est pas rendu compte. Et on lui rajoute de la contrainte, et là, ça devient quand même beaucoup plus dur. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire sur la période de prépa. On a déjà fait un épisode sur qu'est-ce qu'une alimentation saine, etc. Donc on voit bien que globalement, on a déjà fait l'assiette 4 quarts, etc. On va pas re-rentrer là-dedans, mais je mets en garde sur quelques petits principes, grands principes qui me semblent importants.
Je vais me permettre un petit truc. Quand même, c'est que je ne sais pas par quelle magie tu as réussi à faire ça, mais tu as réussi à faire des liens avec les futurs épisodes des différents podcasts. Parce que un des invités que j'ai reçu, justement, sur l'entraînement athlète master, etc., disait que, par exemple, un très bon moyen pour récupérer, pour avoir des protéines, c'est par exemple de faire un milkshake, rentrant de l'entraînement, se faire un milkshake avec du lait, des fruits, d'une banane coupée ou je sais pas quoi dedans. Il a dit, bien sûr, à condition qu'on n'ait pas de problème d'intolérance au lactose, qu'on ait pas ces problèmes, etc. Donc ça, on va en parler. Les fibres, on va en parler aussi dans l'épisode sur le microbiote, donc bientôt qui va sortir dans Sport Nutrition. Donc c'est tout un tas de sujets qui vont revenir. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est-à-dire que là, je fais un peu la pub pour les épisodes qui vont venir parce que comme je les ai tous enregistrés, je sais de quoi on parle. Mais je ne sais pas par quelle magie, en fait, tu as réussi en fait à faire un lien. Prochain épisode de Kilomètre 42. On parlera justement de cette histoire de récupération et justement ça avait été abordé, l'histoire de dire des fois le lactose pour certaines personnes ça passe pas et c'est dommage parce que ça pourrait être une bonne source aussi justement pour récupérer, pour repartir du bon pied après une bonne séance, etc. Et on en a reparlé, c'est que c'est important et notamment en vieillissant, et ça c'est le dernier rebond que je vais faire là-dessus, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes âges, hein, les gens qui écoutent, mais en vieillissant on a une tendance aussi à oublier qu'il faut manger quand même des protéines et que l'apport en protéines est important aussi, y compris en vieillissant, et là vous le verrez dans l'Athlète Master parce que c'est un sujet qui est au cœur aussi un petit peu des questionnements qu'on a sur l'entraînement master. Voilà, bref.
Ouais, merci Bertrand. Mais écoute, voilà, c'est cool, hein, si on peut, voilà, si on peut évoquer ce point. Après, c'est toujours intéressant de faire des rebonds avec d'autres épisodes parce que ça prouve aussi qu'on est dans une approche qui est très holistique et on essaye vraiment de comprendre ce qui se passe dans la totalité de l'organisme. Donc ça, c'est plutôt important. Moi, il y a d'autres choses sur lesquelles je veux revenir. C'est quelques micronutriments. Je veux simplement revenir sur, d'une part, le fait qu'il y a une problématique sur le fer. Ça, c'est vraiment très important. Dans le sens où j'avais déjà expliqué, mais en fait, alors, ça touche surtout les femmes parce que les femmes ont tendance à souvent manger moins de protéines que les hommes. Le fer est dans les protéines rouges, les viandes rouges. Mais aussi sur le fait qu'on a nos règles et qu'on perd beaucoup de fer avec les règles. Et donc, en fait, si on rééquilibre pas, on peut vite tomber dans une carence en fer. Et autre chose, en fait, la problématique, c'est que dans les sports à impact, le fer, il est transporté dans les globules rouges. Et en fait, on a démontré qu'il y avait un éclatement des globules rouges dans le sang. Et du coup, ben, d'emblée, on perd du fer aussi. Donc en fait, on voit bien qu'il y a un écart entre le fer ingéré et l'absorption du fer dans l'organisme, parce que quand il est transporté dans le sang, c'est qu'il va aux cellules cibles qui en ont besoin. Donc on voit bien qu'en fait, il n'est pas acheminé, quoi. Donc par rapport à ça, il faut vraiment faire attention au fer. Il faut avoir une consommation de fer qui est importante. Je sais que tout le monde n'aime pas le boudin noir, et on en avait déjà parlé, mais moi je trouve que ça reste une source de fer qui est très satisfaisante. Après, voilà, de la viande rouge. Alors même si on est dans des logiques beaucoup plus de végétarisme et de limiter les apports en viande, ce qui est mon cas, en fait, le problème d'une carence en fer, c'est que ça diminue, ben, puisque on va limiter le transport d'O2, donc on va limiter nos fonctions cardio-respiratoires. Et puis le fer, l'anémie fatigue beaucoup. Donc c'est des indicateurs qui doivent permettre ça. Et puis autre chose, on devait faire le rebond et du coup on le fait. On avait évoqué l'idée de la concurrence entre le magnésium et le calcium,
Oui.
qui sont deux minéraux importants. Donc on avait dit qu'on referait un tout petit rebond parce que j'avais pas été hyper satisfaite de ma réponse. Et donc on avait dit avec Bertrand qu'on ferait ça. Alors ça se fond très bien dans l'épisode, donc c'est parfait, ça c'est pas hors sol. Pourquoi être vigilant sur ces apports en magnésium et en calcium? Déjà, juste rappeler qu'en fait les deux rentrent en concurrence dans l'absorption de la cellule, en fait, parce que c'est une histoire de deux canaux ioniques. Je vais pas être ultra technique, hein, mais en fait c'est soit l'un soit l'autre, ils peuvent pas rentrer ensemble, donc ils sont en concurrence. Et quand il y en a un des deux qui passe en priorité, bah, c'est davantage le calcium. Après, le magnésium, il y a aussi un autre système, un autre mécanisme qui fait qu'il est évacué. Je crois que j'en ai parlé sur le stress la semaine dernière. Plus on est stressé et plus on évacue du magnésium dans les urines. Donc, on voit bien qu'on peut très vite manquer de magnésium. Et donc, pour ça, moi, je recommande vraiment de faire attention, de consommer des eaux riches en magnésium. Bien sûr, l'épare est une eau très, très riche en magnésium. Après, elle a un goût particulier, il faut l'aimer. Mais ça reste important de consommer, ben, d'avoir des apports en magnésium qui sont importants. Bien sûr, il y en a dans le chocolat, mais après, il faut manger beaucoup de chocolat pour avoir du magnésium. Donc, on en trouve dans les oléagineux comme les amandes et les noix. On en trouve beaucoup dans les épinards, mais à nouveau, c'est du magnésium végétal, donc qui est souvent moins bien assimilé. Dans les légumineuses, dans les graines de chia et dans l'avocat et la banane. Donc c'est pour ça qu'il y a des bananes sur les courses. Mais j'avais vu une étude là-dessus qui démontrait qu'en fait la banane, c'était pas forcément le meilleur ami du coureur. Je crois que c'était une histoire avec le potassium. Je l'ai plus là comme ça, mais il faudrait que je recreuse mon truc. Mais c'était intéressant. Et en fait, c'est une hérésie qu'il y ait des bananes. La conclusion de ça, c'est que c'est une hérésie qu'il y ait des bananes. J'ai juste pas l'explication. Mais
D'accord.
je me souviens de cette affaire-là. C'est une hérésie qu'il y ait des bananes sur des trucs de ravito, parce qu'en fait, ça serait plus contre-productif pour le sportif qu'autre chose. Donc, je vous
Ah ouais.
dirai ça, affaire à suivre.
Et
Ouais,
pourtant,
j'ai plus
attends,
l'explication.
et les tennismans et tout, on les voit manger un bout de banane
Et ben,
au
apparemment,
changement de côté et
c'est une
tout.
hérésie totale. C'est une hérésie totale. Mais je vous redonnerai la référence parce que
Ah
j'avais un
ouais.
truc là-dessus et j'ai juste plus l'explication là parce que je l'ai pas, elle vient pas là. Voilà, donc attention aux micronutriments et bien, bien ses apports en calcium et en magnésium. Le calcium, hein, aussi la minéralisation osseuse, donc c'est important dans le cadre de la pratique de la course à pied. Voilà, je pense que je suis pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand? Parce qu'il nous reste il nous reste la semaine d'avant, le jour d'avant, il nous reste des trucs. Hein.
Non, mais on va pas creuser sur les micronutriments et tout, parce que l'épisode de Sport Nutrition qui est sorti vendredi, on parle vraiment des carences en micronutrition. On a parlé du fer, des coenzymes Q10, on a parlé du zinc, on a parlé de tous ces trucs-là.
Génial.
C'est un épisode qui est super complet, qui est avec Sébastien Diefenbrunn, qui fait de l'alimentation notamment, qui suit des trailers, des sportifs, qui fait aussi l'assistance sur les trails, qui est super calé. On a vraiment parlé de tout ça, de tous ces éléments-là. Et notamment en fait des faux amis, des vrais amis, des sources qu'on peut avoir et tout. Donc je mettrai un lien sur mes sports nutrition si vous ne voulez pas écouter. J'ai eu les premiers retours, parce que là on enregistre vendredi, j'ai eu les premiers retours. Et je te garantis, les retours, notamment, je pense à un petit clin d'œil à Marie-Laura qui a dit, qui a pris plein de notes sur le sujet, qui a pris plein de trucs. Et donc il y en a eu d'autres qui ont fait des retours. Donc je vous mets un lien pour creuser, parce qu'on a fait peut-être 1h30 sur le sujet. Pour vraiment aller creuser. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin, plus que ça, mais c'est vrai qu'il y a on s'en rend
pas
compte.
C'est une vraie thématique.
On s'en rend pas compte à quel point on peut avoir des carences, on peut avoir des manques qui viennent de notre alimentation, qui viennent de, bah, des fois, même de fausses idées. Et puis, je vais finir là-dessus aussi. C'est que moi, demain, je vais au marché et tous les samedis au marché, j'achète mon boudin noir. C'est mon petit boudin. Alors, je suis le seul à manger à la maison. Hein, mais mon petit bout de boudin noir, une fois par semaine, franchement, je te garantis que je l'apprécie.
Mais moi, j'aime beaucoup ça aussi. C'est pareil, je suis la seule à en manger, mais j'aime beaucoup ça. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Moi, j'aime bien avec des pommes. Mais
ouais,
après,
moi aussi.
Même avec de la purée de pommes de terre, c'est très bon. Alors, la semaine d'avant.
Oui.
La semaine d'avant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des personnes qui ne changent rien. Mais il y a un régime dont on parle souvent, qui s'appelle le régime dissocié ou le régime scandinave, qui, moi, me semble physiologiquement intéressant. C'est-à-dire que scientifiquement, je vois pas pourquoi en fait ça pourrait pas être bénéfique. C'est-à-dire que c'est toujours une histoire de bénéfices et de risques. Je vois toujours ça comme ça. Je pense qu'il y a plus de bénéfices à suivre ce régime que de ne pas le faire, parce qu'en fait, je vois pas de contraintes particulières. À part, je vais les souligner les contraintes, les limites. Mais je pense que pour la performance du dimanche, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à le suivre. Les inconvénients, ils sont sur la période, on va expliquer. Donc en gros, il est dissocié parce qu'en fait, il dissocie deux phases. C'est pour ça qu'il s'appelle le régime dissocié. Il y a une première phase, en fait, environ de 8 jours à 4 jours avant le marathon. Donc on peut commencer à peu près le samedi, le dimanche d'avant. Jusqu'à 4 jours avant, en fait, on va chercher à appauvrir ses réserves en glycogène. Je le refais, c'est rapide. Glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans l'organisme. Donc en fait, on le stocke principalement dans les muscles et dans le foie. On parle de glycogène musculaire ou de glycogène hépatique. Ce glycogène, lorsque le corps va venir chercher à le déstocker parce qu'il en a besoin, parce que je rappelle que le glucose est l'une de nos principales sources d'énergie, en fait, en le déstockant, il va déjà libérer de l'énergie. Donc c'est déjà un moyen de libérer de l'énergie. Et ensuite, la molécule de glucose en tant que telle, elle va être décomposée. Donc, d'emblée, on voit que c'est une source d'énergie qui est intéressante. Le glycogène musculaire et hépatique, ils sont quand même assez rapidement disponibles. Mmh. Voilà. Ils sont assez rapidement disponibles et donc on les utilise principalement dans les 40 premières minutes de l'effort. Qu'est-ce qu'on voit bien tout de suite, on veut en venir? Qui dit réserve de glycogène dit a priori plus de réserve énergétique sur la première partie de la course. OK. Mmh. Donc, la question, vous allez me dire, mais pourquoi on va s'appauvrir en glycogène? Et ben, en fait, on a constaté que quand on épuisait ses réserves, derrière, quand on remboursait, entre guillemets, une forme de dette, et ben, il y avait une saturation qui était plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on pouvait remplir un tout petit peu plus les stocks. C'est un mécanisme d'adaptation contraire de l'organisme. Alors, j'aime pas parler de ça parce qu'en fait, on a trop souvent tendance à dire, oui, quand on fait un régime, derrière, le corps se venge. En fait, c'est un peu ça, le fonctionnement. C'est-à-dire que oui, on va surstocker à un moment donné, mais c'est temporaire. On va pas surstocker du gras. Ça fonctionne pas pareil avec les réserves de lipides. On n'a pas cette même saturation de la cellule lipidique. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vider ces réserves de glycogène pendant 4 jours. Et ensuite, on va re-remplir ces réserves de glycogène les 4 derniers jours. Et donc, en fait, au final, on va avoir des réserves de glycogène qui seront plus importantes qu'avant le début de l'expérience. Donc, bah, les avantages, bah, clairement, c'est qu'on va maximiser énormément le glycogène. Maintenant, les limites. La première limite, c'est que on peut avoir une période de fatigue importante pendant la phase de privation, parce que pendant cette première partie, on va consommer essentiellement des lipides et des protéines. Mmh. En gros, l'alimentation, elle est presque 40-60, quoi. 40% de protéines et 60% de lipides. Donc, c'est une alimentation de type cétogène, quoi. Mmh. Voilà. Pour faire simple. On peut réserver 10% de glucides et on va mais chercher, on va pas du tout aller sur des féculents, on va rester sur des glucides qui apportent de l'énergie, on va dire un peu rapidement, qui vont pas trop se stocker. Alors je conseille pas trop, j'ose pas trop parler de légumes. Le seul légume que je conseille dans cette phase, c'est les carottes, parce qu'elles sont pas trop riches en fibres et que bah du coup ça permet un petit peu de d'avoir quand même un petit peu de légumes. Mais voilà, c'est pas grave si pendant cette période il y a pas de fibres. Au contraire. Pourquoi? Parce qu'on va aussi nettoyer les intestins des fibres. En fait, les fibres, il faut savoir que c'est un des éléments qui met le plus de temps à partir du tube digestif. Parce que c'est comme si elles créaient une petite paroi, d'ailleurs qui aide à fluidifier la paroi de l'intestin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va mieux aux toilettes quand on mange des fibres. Parce qu'il y a une sorte de muqueuse qui va faire que ça va bien coulisser, quoi. Désolé pour cette taille technique, mais malgré tout, c'est important.
C'est important, c'est le corps humain. Hein, tout le monde y va aux toilettes. Alors, franchement.
C'est ça. Ça me fait toujours drôle de parler de ça dans un épisode de podcast, mais et de me dire qu'il y a plein de gens qui vont écouter qui racontent du caca. Mais voilà, c'est ça, c'est la vraie vie. Et donc, la semaine d'avant, en fait, plus on peut limiter les fibres et au plus qu'on se rapproche de la compétition, mieux c'est. Parce qu'il y a des désordres gastriques qui sont aussi dus à des résidus de fibres. Mmh. Voilà. Plus les intestins sont vidés des fibres et en fait, bah, moins on risque d'avoir en fait cette problématique d'une envie soudaine d'aller aux toilettes. C'est bien dit, c'est joliment dit là.
C'est joliment dit,
et
oui,
donc,
voilà.
T'as vu, une envie soudaine d'aller aux toilettes. Bon, après ça ne veut pas dire qu'il y en aura pas, parce que les fibres ne sont pas le seul élément qui font qu'on en a envie ou pas. Donc attention à ça. Autre problème, c'est qu'il y a des personnes qui vont avoir. On a tous un entre guillemets une flore microbienne qui va faire que intestinale on va avoir plutôt tendance à soit avoir des selles très régulières, très normales, soit être plutôt de nature constipée ou plutôt de nature un peu laxe. Mmh. Et en fait, selon la nature qui est la nôtre, il faut vraiment bien se connaître là-dessus, il faut pas faire de régime dissocié si vous avez une tendance à la constipation naturelle. Parce que là, le problème, ça peut être d'avoir assez vite une occlusion intestinale, donc il faut faire attention. Donc à ce moment-là, moi, je suis plutôt pour de limiter les fibres que 2 jours avant. Voilà, ça suffit. Mmh. C'est qu'après, de toute façon, en général, ces personnes-là, elles sont pas trop sujettes à ces troubles-là. C'est-à-dire, elles peuvent avoir des troubles gastriques, mais qui sont pas dus à ça. Et donc, pour moi, le seul entre guillemets inconvénient, c'est la fatigue des 4 jours sans glucides. Voilà. Pour moi, c'est le gros inconvénient. Après, je pense qu'il faut pas répéter ça plusieurs fois dans la semaine, dans l'année. Je pense qu'il faut pas. Voilà, faire des régimes dissociés plus de 2 fois. Je pense que 2 fois, c'est très bien pour l'organisme. Au-delà, ça induit quand même un stress pour l'organisme. Et donc, il faut quand même faire attention à ça, quoi. Donc, moi, je suis assez pour de ce régime dissocié, parce que je trouve que ça permet de maximiser les choses. Ensuite, et on arrive sur la fin de la prépa. En fait, on pense toujours à tort que le repas le plus important, c'est le repas du matin. Mmh. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure avec ton petit-déj. En fait, le repas le plus important, c'est le repas de la veille.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est celui qui va finir de remplir ses stocks. Tu vois, la veille, tu vas remplir tes stocks, tu vas dormir et du coup, tu vas pas réutiliser l'énergie que tu stockes. Je suis pas en train de dire qu'il faut se faire péter la panse le soir de la veille. Pour autant, les pasta parties, alors elles n'existent pas par hasard d'ailleurs. Hein. Les pasta parties, elles existent justement parce que on sait très bien l'importance de maximiser les réserves de glycogène la veille. Mais elles présentent un inconvénient, c'est qu'on va avoir trop tendance, déjà à manger beaucoup de gluten, parce que dans les pâtes il y a beaucoup de gluten, donc faut faire attention pour les personnes qui sont sensibles à ça. Et puis aussi le but, c'est quand même pas d'avoir un énorme repas la veille au soir. Il faut avoir un repas de qualité avec beaucoup de glucides, Moi, je conseille la semaine d'avant. Pour le coup, je mange que des pâtes intégrales à complète. Mais la semaine d'avant, pas de blanche, quoi. Pas de blanche, riz blanc, tout blanc, quoi. Zéro fibre dedans, quoi. Il faut limiter toutes les fibres, quoi. Et donc, un repas qui peut être intéressant veille de course. Alors, ça dépend une nouvelle fois, hein, des profils, on va dire, des personnes. Moi, je sais que voilà, je vais pas avoir tendance à manger trop de riz parce que sinon, j'ai plutôt une tendance, voilà.
À boucher.
Hein?
Ça bouche.
De quoi?
Ça bouche.
Oui, voilà, exactement. C'est pas très joli, mais un peu.
Non, mais parce que tu sais pourquoi j'en dis? Parce que j'en avais parlé avec Marine Leleu un jour. Tu sais, quand elle a fait la traversée de la Manche, la nage, etc. Où justement, la stratégie, c'est de manger beaucoup de riz, justement, pour boucher. Parce que quand tu passes 36 heures, pas 36 heures, je sais plus combien de temps elle est passée dans l'eau. Justement, il y avait cette problématique-là quand elle a fait l'enduroman et tout. Mais c'est vrai que les gens se connaissent, en fait. Mais quand on sait qu'il y a des trucs qu'il faut éviter, qu'il faut prendre, etc. Mais ça peut avoir cet effet-là. Mais certains le recherchent. Et comme ça me rappelle Marine Leleu quand on avait discuté. Et puis, c'est vrai que dans
les premiers cas, on ne recherche pas. Elle ne se cache pas que le matin, elle mange du riz dans du fromage blanc et tout. Donc moi, mais d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. Moi, le conseil que je donne, c'est de faire cuire du riz la veille, d'en faire cuire plus. Et l'avantage du riz froid le lendemain, c'est qu'en fait, l'index glycémique, il a baissé. Donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'on remange le riz le lendemain et avec un index glycémique qui est plus bas. Et honnêtement, moi j'ai testé du riz froid mélangé à du yaourt avec du sucre, c'est super bon. Franchement, on a vraiment l'impression d'avoir un riz au lait.
Oui, ça fait un riz au lait.
J'ai dit quoi ? Ouais, dans du yaourt ou du fromage blanc, c'est super bon, quoi. Après, si on a fait un super bon riz au lait maison, c'est encore mieux, hein. Mais l'avantage, voilà, c'est au moins on se fait la ration. C'est souvent, on n'a pas trop le temps la veille de course. Voilà. Dernier repas triglucidique, un peu de protéines. On peut prendre une petite protéine animale ou maigre, peu importe. Et donc vraiment ce repas de la veille, il est important. Et enfin, effectivement, le repas du matin, il faut que ce soit un repas entre guillemets normal, un petit déj normal que vous avez déjà testé. Alors aujourd'hui, on n'a pas parlé des stratégies nutritionnelles à l'effort. Il faudra qu'on fasse un épisode là-dessus parce qu'on aurait autant de choses à dire sur stratégies nutritionnelles pendant l'effort. Qui viendrait en complément de cet épisode. Et donc, le petit déjeuner du matin, il faut vraiment rien tenter. Il faut vraiment faire que des choses que vous connaissez. Pour autant, c'est pas forcément le même petit déj que le petit déj de la semaine. Parce que, on n'a pas besoin d'autant d'énergie, en semaine, donc on va pas forcément avoir le même petit déj. Il faut le tester, en fait, sur les matins de sortie longue. Et il faut voir au bout de combien de temps, alors normalement on ne va pas être fringal puisqu'on s'alimente, mais il faut voir en fait un petit peu comment mettre à l'épreuve. Donc déjà, est-ce que ce petit déj vous le tolérez bien? Donc moi je dis toujours, il faut avoir terminé son petit déj 3 heures avant la course. Bon. 4 heures pour certaines personnes. Ok. Pendant ce temps, on peut avoir des boissons d'attente, ce qu'on appelle des boissons d'attente, mais je le rappelle, hein, limiter toute boisson dans les 45 minutes qui précède la course, parce qu'on peut avoir une hypoglycémie réactionnelle, sinon j'ai déjà expliqué le principe la dernière fois, sauf si on prend des produits à index glycémique bas, ce qui est le cas notamment de la boisson énergétique d'athlète qui est un index glycémique très bas que je vais te partager dimanche, Bertrand. Et ça, c'est intéressant, c'est des boissons qui sont un index glycémique très très bas, donc a priori, et puis ça dépend de la quantité aussi, on en reparlera, hein, mais on entend trop souvent à l'effort qu'il faut avoir des aliments à index glycémique bas. C'est une chose, certes, ça dépend de la quantité qu'on mange. Si on prend toute la compote, effectivement, c'est pas la même charge glycémique que si on prend un petit peu de la compote. Le matin, il faut avoir des glucides lents pour avoir une diffusion lente dans l'organisme, que ça diffuse longtemps. Et puis c'est bien d'avoir des protéines justement pour diminuer l'index glycémique total du repas, hein, je le rappelle, hein. Là, on renvoie à pas mal d'épisodes, mais je renvoie à l'épisode qu'on avait fait sur les index glycémiques, la glycémie, etc. Plus le petit déj du matin, il a un index glycémique bas, plus ça va se diffuser lentement dans votre organisme. Et donc, clairement, plus l'énergie, vous aurez de l'énergie progressivement au cours de la course, et vous allez limiter les fluctuations de la glycémie dans le corps. Qu'est-ce que t'en penses, Bertrand ?
Eh ben écoute, c'est un sacré programme. J'étais en train de réfléchir en me disant, mais qu'est-ce que je vais manger dimanche matin? Et je pense que demain je vais me faire un petit riz au lait quand même. Moi j'ai pas vidé les stocks. La stratégie de vider les stocks, j'avais essayé de le faire sur le marathon de Paris. Quand j'ai couru le marathon de Paris, j'ai essayé de le faire. Il y a un truc à préciser quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un petit coup de fatigue, mais comme on est dans une semaine d'affûtage, on a moins de séances dures, on n'a pas les séances. On a un programme qui est plus allégé. Donc, il ne faut pas que ça fasse peur. Je veux dire, Si on fait ça sur la grosse semaine, c'est-à-dire la 3 semaines avant le marathon, où c'est la grosse semaine où on a la plus grosse charge, là, c'est sûr que c'est la cata. Par contre, sur la dernière semaine, on est en affûtage, c'est des séances qui sont plus légères, on a moins de temps d'effort, on a vraiment, puis ça ralentit, hein, vraiment. C'est ceux qui courent leur premier marathon, qui rentrent dedans, ils vont se dire, mais j'arrête de courir ou quoi? C'est beaucoup plus fin, plus petit. Et donc, j'avais essayé. Écoute, c'est vrai que ça fait bizarre parce que d'un coup, on a l'impression qu'on change totalement d'alimentation. Est-ce que ça avait été efficace pour moi? J'en sais rien. Franchement, je suis pas capable de mesurer. Je ferai sur le prochain marathon.
Tu peux pas savoir. T'aurais pu le faire qu'en comparaison, en fait.
Bah oui.
Et de toute façon, tu pourras pas parce que ce que je dis toujours, on peut pas comparer sur nous-mêmes des stratégies. On peut tester des stratégies. Mmh. Et en fait, ce qu'on peut savoir, c'est quand ça ne fonctionne pas. Parce que le résultat, il est pas là et que voilà. Mais on peut jamais vraiment savoir si une stratégie a fonctionné parce que la stratégie qui fonctionne, elle est liée à plein de facteurs, en fait. Et du coup, ça aurait pu très bien se passer avec d'autres stratégies au final, tu vois. Donc, ça aurait pu aussi très bien se passer avec ton régime dissocié et tu ne le sais pas, justement. Et c'est ça toute la difficulté de la recherche en sciences humaines. C'est qu'on voit bien que, bah, clairement, on a tellement de variables qu'on doit manipuler tout et qu'au final, on peut jamais identifier une variable comme étant, dépendant de tout ça, quoi.
Oui, puis moi j'ai pris le mur sur le marathon et la question c'est de savoir si j'ai pris le mur parce que je suis allé trop vite, parce que j'ai mal mangé, parce que j'ai pas les bons apports, parce que je me suis mal ravitaillé pendant la course et tout. C'est vrai, sincèrement, je sais pas comment le mesurer cette histoire-là et on, comme tu le dis, on mesure pas. Par exemple, sur le 24 heures, c'est un truc, je me suis pas du tout préoccupé de ça, tu vois, sur le 24 heures, de savoir ce que je mangeais avant, etc. Parce que
alors,
la gestion de l'effort est différente.
J'allais te dire. Parce qu'en fait, la problématique du marathon, c'est qu'on a une allure qui est tellement régulière et tellement soutenue. Hein. On est sur des autres. Elle est soutenue par rapport à nous-mêmes, on est sur des hautes intensités vis-à-vis de notre VMA, que c'est difficile de s'alimenter à ces allures-là. Tu vas voir dimanche, ça va être difficile de t'alimenter à mon allure.
C'est ça, ouais, tu verras. Moi, je m'alimente à toutes les allures. Non, mais c'est vrai. Et franchement, j'ai un doute là-dessus quand même, de savoir ce que je vais manger pendant le semi. Je me dis...
Mais je t'ai dit, c'est moi qui m'occupe des ravitaux.
Ouais, mais alors, ça veut dire que tu me fais tester des trucs que j'ai pas testé à l'entraînement. Tu vois?
Ah ouais, là, on s'applique à nous-mêmes.
Là, on n'applique pas le conseil. Donc, bref, écoute, c'est pas grave.
Mais c'est pas grave, c'est du athlète nutrition, donc t'as zéro risque.
D'accord, bah écoute, on verra bien. Hein, je te fais confiance sur ce coup-là, on verra. De toute façon, je l'ai dit, hein, l'épisode de la semaine prochaine, après, peut-être sera un épisode où on dira, elle m'a laissé sur le bord de la route, je me suis vidé de toute mon énergie et tout, je sais pas quoi. Enfin, j'en sais rien, en fait, dans quel état je vais être. Ah, bon, j'espère.
Bon, Bertrand, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon sur l'alimentation. Donc, on reprécise hein, qu'on n'a pas parlé de l'alimentation pendant l'effort. C'était un choix de notre part parce que sinon, on y serait encore demain matin. Ouais. On fera un épisode hein, sur comment s'alimenter pendant l'effort. Ne pas tester les produits le jour du semi ou du marathon pour faire référence à nous deux. Alors, comme on dit toujours, hein, les cordonniers les plus mal chaussés, mais en fait, le semi qu'on fait dimanche, il faut quand même préciser aux auditeurs que c'est un semi qu'on fait davantage pour partager une expérience que d'une performance. On n'est pas du tout prêts ni l'un ni l'autre.
Ouais. Et puis, en plus, on y va aussi pour essayer de choper de ça pour le marathon de Paris pour tous, parce qu'il y a, ça fait partie pour ceux qui le savent pas. Alors là, quand même, faut le répéter. Il y a des compétitions partenaires du marathon de Paris, marathon pour tous des Jeux Olympiques, sur lesquelles on peut gagner des dossards. Et le semi-marathon de Vichy fait partie des compétitions où il y a 4 dossards hommes et 4 dossards femmes sur 900 participants, je crois, à peu près, environ 1000 participants. Les femmes, je sais pas combien il y en a. Tu as plus de chances de gagner le dossard que moi, mais veut dire que 4, tu vois. Franchement, déjà, s'il y avait 500 hommes, 500 femmes, etc., le nombre de chances est quand même beaucoup plus élevé que sur tous les challenges. Soyons honnêtes. Je ne sais pas s'il faut finir ou s'il faut juste être inscrit. Bon, on va dire qu'il faut finir quand même.
Non, je pense que c'était inscrit avec ton dossard.
Ouais. Bon, bref, on
Ils
y va aussi
au
pour
sort
ça.
Des dossards.
Voilà, on y va aussi pour ça.
On y va surtout pour ça, parce que le reste, on s'en fout.
Ah non, moi j'y vais pour battre mon record. Attends, franchement, sincèrement, je suis affûté, je me suis affiné, j'ai fait le régime scandinavo, bugnato avec
bien.
De la truffade,
des
etc.
Bons épisodes, hein, c'est ça.
Ah ouais, et vraiment, je me suis, tu vois, j'étais en train de calculer mes apports en eau, j'ai bu de la rosanna pour avoir du magnésium, je prends ma vitamine D tout le temps, tu vois. Enfin, non, je me suis affûté, tu vois. Franchement, tu vois, je suis fin, tu vois, comme une petite ficelle.
Bon, Bertrand. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein, c'est
bon, on
pas
va
mal.
Conclure là-dessus sur nos bêtises. C'est vrai, non.
Ouais,
mais c'était important de faire, de parler de ça parce
que
je sais aussi, il y a un truc qui va se passer, c'est que dans les semaines qui viennent, il y a des gens qui vont regarder le marathon de Paris à la télé, des choses comme ça. Ils vont voir leurs amis courir le marathon sur Instagram, sur Strava et tout. Et ils vont se dire, eh, si moi un jour j'y allais, si je pouvais pas faire ça à la fin de l'année, etc. Et rappelons que sur la fin de l'année, donc il y a La Rochelle, il y a Lyon, il y a plein de marathons sur la fin de l'année. Et que c'est le moment, en fait, où on peut se lancer dans ces préparations-là. Et donc, c'était important aussi de dire qu'il y avait, avant de la préparation elle-même, il y avait tout ce schéma alimentaire qu'on peut suivre. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe pendant la préparation? Donc, c'était important d'en parler. Et bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. Bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On répondra avec un grand plaisir. Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Alors, ça fait beaucoup de liens vers des autres épisodes. Hein. Alors là, je pourrais faire une grande map parce que ça, d'un coup, ça s'est allumé dans ma tête en disant, tiens, il faut que je lie avec ça, avec ça, avec ça. Allez écouter les épisodes. On a fait un épisode spécial alimentation du conseil un samedi sur que manger avant une course pour éviter d'être malade, les nausées, etc. Donc, on avait parlé de ce fameux truc. Sport, nutrition, il y a des épisodes qui arrivent, il y a des épisodes qui sont déjà passés. Kilomètre 42, le prochain épisode sur l'entraînement master, on parle aussi de ce truc-là. Voilà, tout un tas de trucs. Je mets les liens dans les notes d'épisode ou sur mon site, bertrandsouvé.com. Et puis, je mets le lien vers ton site à toi pour les gens qui veulent te contacter. J'ai tout dit ?
Super. Yes, c'était trop bon, comme d'hab.
Bon, j'ai oublié de dire un truc.
Merci Bertrand.
Aujourd'hui, c'était mon 600e jour de course quotidienne.
C'est vrai.
Ouais, on a oublié de le faire. Et j'ai oublié de le dire au début, parce que tu m'as demandé comment ça va. Eh bien, écoute, et j'ai fait ma petite séance et tout. J'ai fait mes petits rituels de pré-course, tu sais. J'écoutais mes trucs, mes petites... J'ai dit tac, bam, et hop, 600e jour. Et demain, 601e. Et donc, dimanche, 602e. Écoute, voilà. Sur ce, on clôture.
Yes. À bientôt, Bertrand.
À bientôt, Laure. Et à bientôt tout le monde. Et bien sûr, bonne course à tous ceux qui sont en train de préparer le marathon, les semi-marathons et tout ça, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Ciao, ciao.
À bientôt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.